Radio Okapi.
Nico Kalambay à la présentation de votre journal.
Bonjour et bienvenue. 4 personnes tuées à Njubu, en territoire de Djougou, lors de l'incursion des miliciens de la Codeco. Ces miliciens, qui occupent beaucoup de villages, ont également pris en otage 7 personnes, selon la société civile locale. À Lubumbashi, le non-respect des règles d'hygiène dans les parcs d'attractions inquiète plus d'une personne. L'afflux des jeunes dans les parcs d'attractions pendant cette période de confinement est très remarquable. Le reboisement empêche la dégradation de l'écosystème, déclaration du chef des divisions provinciales de l'environnement au Kassai central. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de la Terre. Il sera notre invité. Merci d'être avec nous. En Ituri, les assaillants de la Codeco occupent depuis hier samedi plusieurs localités du groupement Njubu dans la chefferie de Ndo Okobo, un territoire de Djougou. Selon la société civile locale qui le rapporte, ces miliciens ont fait incursion notamment à Moulelou où ils ont déjà tué 4 personnes. Jules Tchouba, président de cette structure qui cite les sources coutumières, indique que 7 personnes sont prises en otage pour transporter les butins. Il plaide pour le déploiement des militaires dans ces milieux pour déloger, c'est hors la loi, en vue de permettre aux populations qui ont fui de regagner leurs entités. Jules Tchouba, président de la coordination de la société civile en territoire de Djougou, est joint par Martial Kizia Biamongo.
Ils ont investi plusieurs villages de Goumandjoubou. Ils sont sur place là-bas. Alors la population a vidé les milieux. Alors ils sont en train de faire les pillages, sont en train d'incendier les maisons. Et jusqu'à présent, on a retrouvé 4 morts. Et il y a eu 7 personnes qu'ils ont emportées, qui sont parties avec 7 personnes qu'ils ont kidnappées. Ça doit être pour le transport là des butins de guerre. Ils sont venus de la limite entre Warendu-Tchad-Sui et Warendu-Tchad-Sui par détermination pour défendre la population civile. Nous demanderions à l'armée de se déployer sur terre là-bas, parce que dans la chefferie de Ndokebo, à l'ouest, en tout cas, l'armée ne le contrôle pas. Sinon, il faudrait que l'armée récupère ces lieux-là pour maîtriser la sécurité de ces milieux-là.
Au Congo central, l'arrestation de Zachary Badiengila alias Nemwandansemi, ainsi les incidents ayant coûté la vie à 14 de ses adeptes, ne doivent pas engendrer d'autres hostilités dans la province. C'est ce qu'a indiqué hier samedi à Radio Okapi Senga Munana, président provincial du mouvement Bundu Diamayala. Ce dernier appelle les Makessa à ne mener aucun mouvement hostile en attendant l'aboutissement des enquêtes. Senga Munana est au micro de Dana Plurichmambu.
Moi, je parle aux Makessa de BDK et aux membres de BDM de garder leur calme parce que nous avons un ministre des droits humains, nous avons des autorités. Je demande une enquête indépendante. Je demande aux communautés internationales de faire une enquête indépendante pour faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé à Songololo. Donc, aux Makessa, ils doivent d'abord garder leur calme jusqu'à ce que le dossier va aboutir. Donc, on n'a plus besoin de tueries, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Qu'ils restent sur place dans leur maison. Donc moi je crois que c'est ce que je peux lancer comme appel.
En République démocratique du Congo, depuis le début de l'épidémie du coronavirus déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 442 cas confirmés. Au total, il y a eu 28 décès et 50 personnes guéries, 216 cas suspects en cours d'investigation, 26 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, une nouvelle personne sortie guérie, aucun nouveau décès des cas confirmés, 190 échantillons testés, 281 patients en bonne évolution. 6 provinces sont touchées par cette pandémie. Kinshasa, 429 cas. Le Nord Kivu avec 5 cas, le Sud Kivu 4 cas, en Ituri il y a 2 cas enregistrés, Kwilu 1 cas, au Katanga 1 cas. Le Haut-Katanga, un nouveau phénomène a vu le jour à Lubumbashi depuis près de 3 semaines en cette période marquée par la propagation du coronavirus. C'est l'affluence des jeunes dans différents parcs d'attractions de la ville sans aucun respect des mesures d'hygiène telles que recommandées par les autorités sanitaires. Plusieurs personnes s'en inquiètent. Jean Gandou.
L'un des parcs d'attractions le plus fréquenté à Lubumbashi est celui situé devant les bâtiments du 30 juin. Cet espace est compris entre les avenues Lubilashi et Kachobwe. Chaque jour, aux petites heures du matin, plusieurs centaines de jeunes, tous âges confondus, le prennent d'assaut pour y exercer différentes disciplines sportives. C'est notamment la marche, le marathon, la boxe, le karaté, le football, le basketball et autres. Cette affluence fait que, par moments, les passages des véhicules posent problème. Mais d'où viennent tous ces jeunes?
On était nombreux, plus même de 5000. Il n'y avait même pas d'espace. Ouais, c'est chaque jour. Comme moi, je me réveille à 5h. Il y a des autres qui viennent de Kamalondo, Kenya. Ils se réveillent peut-être même à 4h comme ça.
Le matin, on se réveille.
On part là-bas, on commence à s'entraîner. À partir de 3h du matin, au moins 3000 personnes par jour. Il y a même des entraîneurs de boxe là-bas, tu payes, on t'entraîne. Tout le monde croit qu'il n'y a pas du corona en RDC. C'est pour cela que tout le monde s'amène là-bas.
Et pourtant, le maire de Lubumbashi a, dans un communiqué publié il y a quelque temps, interdit tout attroupement à cet endroit. Au regard de la réalité sur le terrain, il est clair que la mesure de l'autorité urbaine n'est pas appliquée. Et tout le monde se comporte comme si de rien n'était, indique une dame qui habite aux environs du square George Arthur Forest. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sur le même registre, mais cette fois-là, à Kinshasa, lutte contre le Covid-19, l'ONG leader de proximité pour la gouvernance locale, propose au gouvernement et au secrétariat du Covid-19 d'associer les bourgmestres, les chefs des quartiers et même les chefs des rues dans la sensibilisation contre cette pandémie. Dans un point de presse tenu hier, samedi, à Kinshasa, Patrick Bourgeois-Bakwa, rapporteur principal de cet ASBL, estime que c'est la seule stratégie pour vaincre le coronavirus. Patrick Bourgeois-Bakwa est au micro de Paul Matendo.
Nous avons pensé qu'il faudrait plus que jamais associer les bourgmestres, beaucoup plus les impliquer dans la lutte contre le Covid-19, impliquer les chefs de quartier, les chefs de rue, afin que nous puissions véritablement vaincre cette pandémie. Les citoyens lambda congolais doivent s'approprier cette problématique de la lutte contre le Covid-19. Et il doit s'y intéresser. Et comment va-t-il s'intéresser ici? Je donne un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez un cas suspect, je veux dire, au niveau de votre quartier ou de votre rue, vous pouvez être à même de pouvoir rencontrer les chefs de rue ou les chefs de quartier et lui dire, voilà, nous avons un cas, par exemple, ici, nous sentons que ça ne va pas. Et lui, il est capable d'appeler en tant qu'autorité administrative et politique, il est capable d'appeler un ambulancier pour venir prendre les malades. Nous devons en arriver là. L'État pense qu'il faudrait sensibiliser plus au niveau du sommet, mais il faudrait s'intéresser à la base, parce que c'est là où il y a les véritables problèmes.
Dans la province de la Tchopo, le comité provincial de la Croix-Rouge du Congo a organisé jeudi dernier une séance de briefing sur le coronavirus à l'intention de ses membres. Cette activité a été menée conjointement avec la division provinciale de la santé et l'UNICEF. Elle est un prélude à la campagne de sensibilisation que les volontaires sécouristes vont organiser à partir de samedi prochain dans les différentes communes de la ville de Kisangani afin de lutter contre la rumeur. Les explications avec Jacques Mukonkole.
Au moins 40 volontaires secouristes ont été sensibilisés ce jeudi sur le coronavirus. Pour la présidente du comité provincial de la Croix-Rouge du Congo, pendant leur descente sur le terrain, les secouristes vont apporter la vraie information aux ménages afin de lutter contre la rumeur. Cette dernière risque d'impacter négativement sur la vaccination des routines. Adolphine Alice Taponé.
Si nous prenons par exemple le cas des vaccins, nous avons le vaccin des routines, là où nous avons l'habitude de vacciner nos enfants pour la polio, la rougeole, ainsi de suite. Et il y a aussi le vaccin qu'on parle pour ce fameux virus-là. Vous voyez que le vaccin-là risque de donner une résistance à nous, la population, pour faire vacciner nos enfants contre les maladies de routine.
En binôme, les secouristes vont sillonner différents ménages à travers les 6 communes urbaines afin de donner la vraie information à l'air haute. Témoignage de Paul Lunganga, l'un d'eux.
Les spéculations que nous entendons à la cité, c'est pas ce que je viens d'entendre ici. Pour nous maintenant, c'est d'aller vers la population, passer le message exact de ce que nous entendons sur la maladie coronavirus.
Signalons que les 40 secouristes sensibilisés ces jours s'ajoutent aux 40 autres formés précédemment pour cette fin. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, le député national Hubert Makengo propose au Premier ministre de créer un établissement public qui s'occupera de la prédiction des catastrophes naturelles en RDC. Ce spécialiste en génie civil et professeur à la faculté de polytechnique de l'UNIKIN a évoqué la question au cours d'un échange avec les intellectuels de Kinshasa ce samedi. L'élu du territoire de Kasongo pense que la création de cet office pourrait prévenir les calamités comme celles qui ont coûté la vie des compatriotes à Uvira, à Malembankoulou et à Lissala. Selon lui, ce serait donc un service à caractère scientifique et technique capable de produire les moyens de subsistance. Il est au micro de Pascal Masirika.
Il faut que le Premier ministre puisse créer un office de lutte contre les inondations et les érosions. Il y aura une équipe d'ingénieurs qui vont faire des études. Puisqu'il y a moyen en ingénierie, on nous apprend même à faire de la prédiction. Vous savez que le volcan Nyiragongo a déjà dessiner plus ou moins une certaine périodicité d'éruption. 1952, 1977, 2002. Vous ne voyez pas que chaque fois les 25 ans. Et alors, moi, j'ai dit, peut-être attendons-nous en 2027, 28, 29. Heureusement que pour Goma, on a déjà pris des précautions et même des travaux que j'ai vus. C'est comme si déjà on s'est dit, le jour où il y aurait éruption volcanique, on a déjà mis des tracés, des collecteurs par lesquels les laves volcaniques pourraient couler et même avec des barrières. Et c'est ça l'ingénierie. Il y a tout un travail qui doit être fait.
La ville de Guadolité, dont la province du Nord, Oubangui, de nouveau alimentée en électricité depuis le 22 avril dernier, après 2 ans d'interruption. Une équipe d'experts dépêchés sur place à Guado a travaillé d'arrache-pied donc avec les ingénieurs locaux pour venir à bout de la situation de transport d'électricité haute tension entre la ville de Guadolité et la centrale hydroélectrique de Mobimbongo, située à 25 kilomètres de là. Pour l'instant, d'après le responsable de production et de transport de la SNEL, Guadolité Théophile Yamoto, l'équipe est encore en train de travailler sur certains réglages pour que définitivement l'électricité redevienne à la normale à Guadolité. On écoute Théophile Yamoto au micro de Jacques-Yves Molima.
Actuellement, nous sommes à une phase de test. Donc, on va constater des coupures parce qu'il faudrait qu'on puisse vérifier la performance des régulateurs de vitesse installés à la centrale de Mobimbongo. On va procéder au test de prise de charge et de télestage. Pendant la journée, nous arrêtons pour les différents tests. Et la nuit, nous alimentons la ville. Une fois que tout sera prêt, on va continuer définitivement à alimenter la ville de Guadolité sans coupure. Nous remercions le directeur général de la SNEL qui a mis tous les moyens possibles à notre possession. Il a également affrété un avion avec les experts de la direction générale à Kinshasa pour qu'ensemble on puisse finir les travaux à la centrale et également sur la ligne de transport haute tension. Nous remercions également toutes les autorités politico-administratives qui ne cessent à nous apporter des soutiens.
L'invité. Le 22 avril de chaque année, le Monde célèbre la journée de la Terre. En rapport avec cet événement, le chef de division provinciale de l'environnement au Kassai central sensibilise la population sur les avantages du reboisement. Il estime que cette politique empêche la dégradation de l'écosystème. Théodore Moulumba répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Théodore Moulumba.
Bonjour monsieur les journalistes.
Le Monde célèbre ce 22 avril la journée de la Terre qui plaide pour la préservation de la planète. Que retenir de cette journée au Kassai central?
Merci beaucoup pour la question. Au niveau du Kassai central, ce que nous savons est que planète Terre, c'est ça même le socle de l'écosystème qui est en train de réaliser notre vie humaine. C'est-à-dire, les sols comme tels, c'est ça même la production même de notre nourriture et la production de la biodiversité dans notre vie. Ainsi, nous demandons à la population de prendre vraiment la conscience pour voir comment on peut protéger l'écosystème.
Quand vous parlez de l'écosystème, que voulez-vous dire par là?
Quand nous parlons de l'écosystème, nous voyons la forêt, on voit les arbres, et pour avoir les arbres, il faut qu'on puisse quand même reboiser. Puisque si on ne parvient pas à reboiser, nous sommes en train d'endommager les sols. De quelle manière? Nous allons avoir la désertification et puis on doit avoir des érosions. On peut même parvenir à ne pas avoir l'infiltration de l'eau.
Quelles sont les actions qui mènent la division provinciale de l'environnement du Kassai central dans la protection de la terre?
Nous sommes en train de sensibiliser notre population à faire de reboisement. Et au niveau de Chilumba, nous étions là-bas, notre population a quand même compris l'importance des reboisements, puisque eux, quand nous parlons maintenant, ils sont en train de voir la biodiversité qui n'était pas encore à Chilumba. C'est qu'ils sont en train d'accueillir les champignons, il y a aussi le miel des chenilles qui n'étaient pas là, qui sont en train de revenir au niveau de Chilumba. Ils ont vu que c'est important de reboiser notre sol pour éviter les érosions. Ils ont même endigué les érosions à partir de ça. Et il y a même la fertilisation des sols à partir de leur reboisement qu'ils sont en train de faire.
Chilumba, c'est la ville de Kananga. Pensez-vous aussi à mener d'autres actions à travers les territoires de la province?
Oui, au niveau des territoires, nous avons des supervisions. Nos superviseurs ont fait ça de même manière, puisque nous étions en réunion avec eux tout au début de l'année. Tous les superviseurs de territoire étaient avec nous. Nous les avons sensibilisés pour qu'ils puissent quand même accomplir L'action qu'on nous a demandée par le président de la République, il faudrait atteindre 1 milliard d'arbres d'ici l'an 2023. C'est ainsi, ils sont allés dans leur territoire pour sensibiliser, pour que chacun de nous commence à reboiser, qu'on puisse avoir quand même des reboisements dans leur territoire pour lutter contre la dégradation des terres dans leur territoire.
Certains écologistes accusent l'homme d'être à la base de la dégradation de l'écosystème. Qu'en dites-vous pour les cas du Kassai central?
C'est une réalité. Il y a surexploitation des forêts. Il y a aussi nos frères-là qui ne savent pas l'importance d'arbres, sont en train de couper sans pour autant tenir compte des effets. Quand on surexploite la forêt, on est en train de détruire encore le sol. Puisque quand le sol reste nu, ça provoque maintenant que nous sommes en train de nous plaindre pour ces derniers temps. Vous-même, vous avez vu toute la ville de Kananga dissipée. Si on ne parvient pas à réindiquer les érosions-là, on n'aura pas encore la ville.
Alors, quelle solution préconisez-vous pour faire face à cette érosion, surtout ici, à travers la ville?
Il faut faire endiguer ça d'une façon biologique, c'est-à-dire planter des arbres, puisque quand nous plantons des arbres, c'est une façon de lutter d'une façon environnementale. Et s'il y a moyen, on peut amener aussi des moyens techniques de la part de l'OVD qu'ils puissent aussi nous aider à endiguer ces érosions pour ne pas arriver à des catastrophes naturelles qui sont en train de se faire voir dans notre ville.
Selon vous, quelle attitude doivent adopter la communauté centre-kassaïenne et puis les autorités publiques pour la préservation de la terre?
Vous voyez que nous avons des zones tampo dans notre ville de Kananga qui n'est pas respectée. Il y a nos frères qui ont eu des parcelles d'une façon vraiment illégale, qui sont en train de construire dans des zones, nous disons, des zones tampo ou bien zones edificando. Tout ça, ça nous amène voir la destruction totale. Mais s'ils prennent quand même la conscience de ne plus vraiment construire dans de tels lieux, ils vont protéger notre sol et protéger encore notre ville.
Monsieur Théodore Moulumba, nous vous disons merci.
C'est à vous que nous remercions.
Fin de ce Radio Journal sur Okapi. Merci d'avoir suivi. La mise en onde était de Mimi Kindou. Le journal était coordonné par Élisée Tchikota et supervisé par Julien Nyamouigny. Je me nomme Nico Kalambay. Où que vous soyez, passez un excellent dimanche chez vous.